Savoir, pouvoir et émancipation. La transformation des sociétés ternaires. Récapitulons. La Révolution française peut se voir comme une expérience de transformation accélérée d'une société ternaire ancienne. À son fondement se trouve un projet de grande démarcation entre les formes anciennes et nouvelles du pouvoir et de la propriété. Il s'agissait d'opérer une séparation stricte entre les fonctions régaliennes, monopole de l'État centralisé, et le droit de propriété, apanage de l'individu privé, alors que la société trifonctionnelle reposait au contraire sur l'enchevêtrement de ces relations. Cette grande démarcation fut d'une certaine façon un succès, dans le sens où elle a effectivement contribué à transformer durablement la société française et, dans une certaine mesure, les sociétés européennes voisines. Il s'agissait en outre de la première tentative historique de créer un ordre social et politique fondé sur l'égalité des droits, indépendamment des origines sociales des uns et des autres, tout cela dans une communauté humaine de grande taille pour l'époque, qui avait été organisée pendant des siècles suivant des inégalités statutaires et géographiques fortes. Il reste que cet ambitieux projet de grande démarcation se heurta à de nombreuses difficultés. Malgré toutes ces limitations et ces injustices, la société trifonctionnelle ancienne avait sa cohérence propre, et les solutions proposées par le nouveau régime propriétariste pour réorganiser la société étaient caractérisées par des contradictions multiples. On supprimait le rôle social de l'Église sans créer d'État social, on durcissait les contours de la propriété privée sans en ouvrir l'accès, et ainsi de suite. En particulier, sur la question clé de l'inégalité de la propriété, l'échec de la Révolution française est patent. On observe, certes, un renouvellement des élites au cours du XIXe siècle, processus déjà en cours pendant les siècles précédents, même si l'on manque d'outils pour comparer précisément son ampleur suivant les périodes. Mais le fait est que la concentration des détentions patrimoniales resta à un niveau extrêmement élevé entre 1789 et 1914, avec même une tendance marquée à la hausse au XIXe siècle et au début du XXe siècle, comme nous le verrons dans le prochain chapitre, et n'aura finalement été que peu affectée par les événements révolutionnaires. Cet échec relatif peut s'expliquer par la complexité et la nouveauté des enjeux, mais aussi par l'accélération du temps politique. Certaines idées étaient prêtes, mais n'eurent pas le temps d'être expérimentées concrètement. Les événements dictèrent leurs lois aux législateurs révolutionnaires et aux nouveaux pouvoirs, bien davantage que de paisibles savoirs accumulés dans le passé. L'expérience de la Révolution française illustre d'ailleurs une leçon plus générale que nous retrouverons par la suite. Le changement historique découle de l'interaction entre des logiques politico-événementielles de court terme et des logiques politico-idéologiques de plus long terme. Les évolutions des idées ne sont rien tant qu'elles n'ont pas conduit à des expérimentations institutionnelles et des démonstrations pratiques dans le feu des événements, des luttes sociales, des insurrections et des crises. Mais à l'inverse, les événements et leurs acteurs n'ont souvent d'autre choix que de puiser dans le répertoire des idéologies politico-économiques élaborées dans le passé. Ils peuvent parfois inventer en direct de nouveaux outils, mais cela exige du temps et des capacités d'expérimentation qui font généralement défaut. En l'occurrence, il est intéressant de voir que les débats autour des origines plus ou moins légitimes des propriétés nobiliaires et des droits seigneuriaux avaient dans une certaine mesure déjà eu lieu au cours des siècles précédents. Le problème est que ces débats en étaient souvent restés à des considérations historiques générales et n'apportaient pas de solutions véritablement opérationnelles aux questions concrètes qui allaient se poser dans le feu de l'action. Des juristes tels que Charles Dumoulin, Jean Bodin et Charles Loiseau avaient ainsi stigmatisé dès la fin du XVIe siècle et au début du XVIIe siècle la façon dont les seigneurs, parfois issus des vagues d'invasions fortes anciennes, francs, Huns et Normands en particulier, entre le 5e et le 11e siècle, avaient abusé au fil des siècles de la faiblesse des princes pour acquérir des droits excessifs. À l'inverse, les défenseurs des thèses seigneuriales tels Boulainvilliers et Montesquieu au XVIIIe siècle insistaient sur le fait que les francs avaient certes profité de leur position de force initiale, mais qu'ils avaient depuis lors acquis une légitimité nouvelle en protégeant les populations pendant de nombreux siècles, notamment face aux Normands et aux Hongrois. De telles considérations historico-militaires, aussi révélatrices soient-elles, concernant la question de la légitimité guerrière de la classe nobiliaire et l'utilisation de ce type d'argumentation au cœur du XVIIIe siècle, ne permettaient pas de définir précisément les conditions d'une propriété juste et refondée. Au fond, le cœur des débats des siècles précédents portait surtout sur la question du rôle respectif de l'État centralisé et des élites locales. Boulainvilliers comme Montesquieu défendaient le maintien des seigneuries publiques comme de la vénalité des charges et offices, qui furent eux aussi abolis à la Révolution, le plus souvent avec compensation financière, au nom de la séparation des pouvoirs et de la limitation du pouvoir royal. L'ouvrage de Montesquieu, « De l'esprit des lois », publié en 1748, est devenu par la suite l'un des livres de référence sur la question de la séparation des pouvoirs. On oublie souvent de préciser que pour Montesquieu, qui avait lui-même hérité de la charge fort lucrative de président du Parlement de Bordeaux, il ne suffisait pas de séparer l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Il fallait également maintenir en place les cours seigneuriales locales, ainsi que la vénalité des charges et offices des parlements provinciaux, afin d'éviter que l'État central prenne trop de pouvoir et que le monarque ne se transforme en despote, à l'image du sultan turc. On notera au passage que la référence négative à l'Orient est tout aussi naturelle pour Sieyès, contempteur des privilèges nobiliaires, que pour Montesquieu, son défenseur. La Révolution trancha la question dans l'autre sens. Le pouvoir de rendre la justice fut transféré de l'ancienne classe seigneuriale à l'État centralisé, et il fut également mis fin à la vénalité des offices, dans les deux cas, contre l'avis d'auteurs comme Boulainvilliers et Montesquieu. Rétrospectivement, il est aisé de stigmatiser les positions conservatrices soutenues par les défenseurs des privilèges juridictionnels seigneuriaux et de la vénalité des fonctions judiciaires et administratives. Avec plus de deux siècles de recul, et peut-être même dès le XVIIIe siècle pour les plus clairvoyants, il paraît évident que la justice peut être rendue de façon plus satisfaisante et impartiale dans le cadre d'un service public universel, organisé par l'État centralisé, que dans celui des cours seigneuriales ou dans un système fondé sur la vénalité des charges et offices. Plus généralement, il paraît relativement clair aujourd'hui qu'un État correctement organisé est à même de garantir les droits fondamentaux et les libertés individuelles d'une façon plus convaincante qu'un système trifonctionnel s'appuyant sur le pouvoir des élites locales et les privilèges statutaires des classes nobiliaires et cléricales. Le paysan français était sans doute plus libre au XIXe et XXe siècle qu'il ne l'était au XVIIIe siècle, ne serait-ce que parce qu'il n'était plus soumis à l'arbitraire seigneurial juridictionnel. Il est important toutefois de souligner que la question de la confiance en l'État centralisé, qui se trouve derrière ces débats fondamentaux, est d'une grande complexité et qu'elle n'a rien d'évident tant que les nouveaux pouvoirs étatiques n'ont pas été expérimentés concrètement. La confiance dans la capacité de l'État à rendre la justice de façon impartiale et équitable sur un vaste territoire, à garantir la sécurité, à prélever des impôts et à organiser des services publics régaliens, éducatifs et hospitaliers, tout cela de façon plus juste et efficace que ne l'assuraient les anciens ordres privilégiés, n'est pas quelque chose qui peut se décréter du haut d'une chaire. Cela doit être démontré historiquement et pratiquement. Dans le fond, les craintes de Montesquieu face à l'État despotique et sa défense des cours seigneuriales locales ne sont pas très différentes d'autres attitudes de défiance que l'on observe en ce début de XXIe siècle face à diverses formes de puissance étatique supranationale. Par exemple, de nombreux défenseurs de la concurrence entre juridictions nationales, y compris lorsque certaines de ces juridictions se comportent comme des paradis fiscaux et réglementaires particulièrement opaques et particulièrement avantageux pour ceux qui sont déjà les mieux dotés, justifient leur position en évoquant les risques sur les libertés individuelles qu'entraînerait une trop grande centralisation des informations et des juridictions au sein d'un même pouvoir étatique. Certes, de telles positions sont souvent utilisées pour dissimuler la défense d'intérêts individuels bien compris, comme d'ailleurs dans le cas de Montesquieu. Il n'en reste pas moins que la plausibilité, au moins partielle, de l'argument renforce son efficacité politique et que seule une expérimentation historique réussie peut radicalement faire évoluer les rapports de force politico-idéologiques sur ce type de questions. La Révolution, l'État centralisé et l'apprentissage de la justice. Pour résumer, la question centrale tranchée lors de la Révolution française fut celle des pouvoirs régaliens et de l'État centralisé, et non celle de la propriété juste. L'objectif premier était de transférer les pouvoirs régaliens des élites nobiliaires et cléricales locales à l'État central, et non pas d'organiser une vaste redistribution de la propriété. On se rendit cependant vite compte qu'il n'était pas facile de séparer aussi strictement les deux objectifs. En particulier, le mot d'ordre proclamé lors de la nuit du 4 août, l'abolition des privilèges, ouvrait tout un ensemble d'interprétations et de bifurcations possibles. De fait, il n'est pas difficile d'imaginer des trajectoires événementielles qui auraient conduit à ce que l'abolition des privilèges prenne un tour nettement plus égalitaire. Il serait trop facile de conclure que les esprits n'étaient pas prêts pour l'impôt progressif ou les réformes agraires redistributives à la fin du XVIIIe siècle ou au début du XIXe, et que de telles innovations institutionnelles devaient nécessairement attendre un siècle de plus, et en l'occurrence les crises du début du XXe siècle. Rétrospectivement, il est souvent tentant de favoriser des lectures déterministes des événements historiques, et en l'espèce, de conclure que la Révolution française, bourgeoise de bout en bout, ne pouvait déboucher sur rien d'autre que l'émergence d'un régime propriétariste et d'une société de propriétaires, sans véritable tentative de réduction des inégalités. Or, s'il est vrai que l'invention d'un nouveau droit de propriété, garanti par l'État centralisé, fut une affaire complexe, et que de nombreux législateurs révolutionnaires voyaient là l'objectif central et quasi unique de la révolution, il serait néanmoins réducteur de ramener la complexité des débats révolutionnaires à cette seule approche. Si l'on examine le déroulement des événements et des propositions formulées par les uns et les autres, il apparaît clairement que l'idée même d'abolition des privilèges pouvait aboutir sur différents types d'interprétations et de législations, et aurait pu emprunter d'autres chemins que ceux déjà fort sinueux qui ont finalement été suivis, en particulier sous la forme des approches historiques et linguistiques, au gré de circonstances plus ou moins contingentes. Car au-delà des différences d'intérêts, qui ne doivent jamais être négligées, ce sont également et surtout des conflits intellectuels et cognitifs qui étaient en jeu. Personne ne disposait, et personne ne dispose aujourd'hui, de solutions toutes prêtes et parfaitement convaincantes permettant de définir les privilèges, les modalités de leur suppression et surtout les formes de régulation de la propriété dans la société nouvelle. Chacun avait des expériences et des idées à faire valoir, et l'ensemble de la communauté était impliqué dans un vaste processus d'apprentissage social et contradictoire. Tout le monde sentait par exemple que les corvées, les banalités et les lots appartenaient au passé, et en même temps beaucoup craignaient qu'une suppression sans compensation aboutisse à une remise en cause généralisée des loyers et de l'inégalité de la propriété, sans que l'on sache très bien où un tel processus s'arrêterait, d'où la tentation de maintenir ces droits anciens sous une forme ou sous une autre. Cette position était compréhensible, tout en étant très conservatrice, et elle fut l'objet de conflits violents de la part de ceux qui ne la partageaient pas. La dimension irréductiblement conflictuelle et incertaine de ces événements peut difficilement être évacuée. Des travaux récents ont également montré que des débats très vifs agitaient l'Europe des Lumières, y compris sur ces questions d'inégalité et de propriété, contrairement à ce qu'une vision consensuelle et reconstruite après coup pourrait laisser à penser. Pour Jonathan Israël, on peut ainsi distinguer plusieurs groupes d'auteurs et de positions, avec une opposition très nette entre les Lumières radicales, Diderot, Condorcet, Holbach, Paine, et modérées, Voltaire, Montesquieu, Turgot, Smith. Les radicaux soutenait généralement l'idée d'une assemblée unique en lieu et place des chambres séparées pour les différents ordres, la fin des privilèges de la noblesse et du clergé, et une certaine forme de redistribution des propriétés, et plus généralement une plus grande égalité des classes, des sexes et des races. Les modérés, que l'on pourrait aussi qualifier de conservateurs, avaient tendance à se méfier des assemblées uniques et de l'abolition radicale des droits des propriétaires, fussent-ils seigneuriaux ou négriers, et à manifester une plus grande foi dans le progrès naturel et graduel. En dehors de France, l'un des représentants les plus célèbres du courant modéré était Adam Smith, adepte de la main invisible du marché, une institution dont le principal mérite, selon cette école, était précisément de permettre le progrès humain sans rupture violente, sans bouleverser les institutions politiques anciennes. Si l'on examine plus précisément les positions défendues par les deux groupes sur les questions d'inégalité et de propriété, les différences ne sont pas toujours aussi nettes. Une bonne partie des radicaux avaient eux aussi tendance à se reposer sur les forces naturelles. En témoigne, par exemple, ce passage particulièrement optimiste et représentatif du radical Condorcet dans son « Esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain » rédigé en 1794. Il est aisé de prouver que les fortunes tendent naturellement à l'égalité et que leur excessive disproportion ou ne peut exister ou doit promptement cesser si les lois civiles n'établissent pas des moyens factices de les perpétuer et de les réunir et si la liberté du commerce et de l'industrie fait disparaître l'avantage que toute loi prohibitive, tout droit fiscal donne à la richesse acquise. Autrement dit, il suffit de supprimer les privilèges et les charges, d'établir l'égalité d'accès aux différents métiers et aux droits de propriété pour que les inégalités anciennes disparaissent promptement. Le fait qu'au début du XXe siècle, à la veille de la Première Guerre mondiale, plus d'un siècle après l'abolition des privilèges, la concentration des fortunes en France était encore plus élevée que ce qu'elle était à l'époque de la Révolution, signe malheureusement l'échec de cette vision optimiste. Condorcet avait certes proposé en 1792 la mise en place d'une forme de progressivité fiscale, mais il s'agissait d'une mesure relativement modeste, avec un taux maximal s'élevant à moins de 5% pour les plus hauts revenus. En particulier, la proposition de Condorcet était beaucoup plus limitée que celle défendue par des auteurs moins célèbres, comme Lacoste ou Gralin, dont il est intéressant de noter qu'ils étaient davantage des praticiens des impôts et de l'administration publique que des philosophes ou des scientifiques, ce qui ne les empêchait pas d'être audacieux et imaginatifs dans la formulation de leurs propositions, bien au contraire. Les acteurs les plus subversifs ne sont pas toujours ceux que l'on croit. Il n'en reste pas moins que des propositions précises existaient et avaient été formulées explicitement, y compris parmi les représentants les plus emblématiques des Lumières, et que le cours des événements révolutionnaires aurait fort bien pu tourner différemment, en particulier si les tensions militaires et politiques des années 1792-1795 avaient été moins extrêmes et avaient laissé un peu plus de temps aux législateurs révolutionnaires pour expérimenter en grandeur nature des mesures concrètes de redistribution et de réduction des inégalités de propriété. On pense également aux fameuses propositions de « justice agraire » rédigées en 1795 par le révolutionnaire anglo-américain Thomas Paine, à l'intention des parlementaires français, qui consistait à taxer les héritages à hauteur de 10% et devait permettre de financer un ambitieux système de revenus universels extrêmement précurseur pour l'époque. Ce taux de 10% était certes relativement modéré par comparaison au barème fortement progressif débattu puis appliqué au cours du XXe siècle, et Paine s'en tenait en outre à une imposition quasi proportionnelle, alors que de nombreuses propositions d'impôts fortement progressifs avaient été débattues au cours des années précédentes. Il était toutefois beaucoup plus substantiel que le modeste taux de 1% qui fut finalement appliqué aux transmissions en ligne directe en France tout au long du XIXe siècle dans le cadre du système fiscal introduit par la Révolution française. Surtout, La rapidité des processus politiques et législatifs observés sur ces questions au début du XXe siècle, notamment à l'issue de la Première Guerre mondiale concernant l'évolution de la progressivité des impôts euro-américains sur le revenu et les successions, et plus encore, la célérité de l'évolution des représentations majoritaires à ce sujet. Un barème d'imposition jugé totalement inenvisageable peu auparavant, devenant soudainement parfaitement acceptable par presque tous quelques années plus tard, suggère que les choses auraient pu également évoluer très vite si des mesures concrètes du type de celles prônées par Condorcet ou Paine dans les années 1790 avaient pu être expérimentées réellement et posément, autant qu'il est possible pour de telles institutions, dans le cadre de l'état de droit et de procédures parlementaires, ne serait-ce que quelques années. Il n'y avait rien d'inéluctable à ce que la réaction conservatrice puis napoléonienne s'impose aussi vite, dès 1795-1799, avec le retour du suffrage censitaire et bientôt de l'esclavage et des immigrés, en passant par la création d'une nouvelle noblesse d'empire. Il ne s'agit pas ici de refaire l'histoire, mais plutôt d'insister sur l'importance des logiques événementielles et des expérimentations historiques concrètes dans les ruptures politico-idéologiques autour de la question de la propriété et des inégalités. Plutôt que de favoriser des lectures déterministes, il est plus intéressant aujourd'hui de voir dans ces événements un carrefour d'idées et de bifurcations possibles.